Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je démarre immédiatement par les choses vues récemment. C'est fou ce que je parle vite, c'est admirable. Ça, bienvenue à Derry qui démarre sur HBO Max. Pour le moment, deux épisodes et pas de clown, enfin à part espèce d'ombre dans les flammes pendant un quart de seconde. On prend son temps clairement pour installer le truc. Moi je croyais que c'était une série sur les origines de Pennywise, du coup je pensais que ça commencerait par Pennywise dans la vraie vie avant que je ne sais pas. Pas du tout, en mode Goonies, Stranger Things, mais total. Voilà, donc moi je suis très déçu hein, pour l'instant, mais alors vraiment, en dépit de quelques séquences très réussies, notamment voilà les scènes de cauchemar, il y a une scène avec la mère là dans le deuxième épisode, très très malaisante. À part ça, je trouve que ça se traîne quoi, et puis enfin les gamins là, oui c'est sur des gamins, on va pas gueuler là-dessus, mais je veux dire que là, j'ai hâte que ça passe la seconde, en fait. Je sais pas combien il y a d'épisodes, sans doute 8, un truc comme ça, j'imagine. J'attends vraiment l'arrivée de Pennywise de façon frontale, en fait, pour m'intéresser au truc. J'avouerai que je regarde sans des plaisirs non plus, mais avec un intérêt extrêmement relatif. Parce que je trouve pas que les gamins soient passionnants, et pour l'instant, non, je vois rien de marquant. Enfin, disons que voilà, ces deux premiers épisodes, moi, je les aurais oubliés, mais alors dans un mois, je m'en souviendrai plus du tout. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage, mais en réalité, c'est que les deux premiers, patience, on verra comment ça évolue. Quelle vidéo j'ai vu la mini-série danoise sur Netflix, The Asset. Je crois que ça n'a pas été traduit, qui est excellente. Alors là, première reco de ce JDV. Le début de la série, c'est la mort d'un informateur et une équipe d'enquêteurs donc, qui vont débaucher une très jeune flic pour essayer d'infiltrer un réseau de narcotrafiquants. Et on va lui demander à cette jeune nana de devenir amie, si possible la meilleure amie. Donc c'est rien à Laurie, mais le défi est... La référence, Cali, hein. Ah ouais, pas si. Devenir la meilleure amie de l'épouse du mec qui dirige ce réseau afin de récolter énormément d'informations et de permettre à l'équipe de le faire tomber, ce type. Évidemment, c'est un mec ultra dangereux, totalement paranoïaque. Donc la mission s'avère très délicate, d'autant que sa femme elle-même c'est pas la cible la plus facile pour sympathiser avec quoi. Mais voilà, elle va bondir sur cette occasion lui permettrait de faire ses preuves et surtout de vivre voilà ce pourquoi elle estime qu'elle est faite. Alors c'est ce qu'elle pense au début, mais évidemment elle n'a pas idée de ce qui l'attend. Ça va très vite. C'est très bien joué, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Réal assez classique, hein, etc. Mais quelques séquences de ouf. Même à la réal quand même, je réalise. Très 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 bonne surprise. Donc grosse reco, The Asset sur Netflix. J'ai l'impression que personne n'en parle, mais bon. Qu'est-ce que je veux d'autre ? J'ai vu également le documentaire, toujours sur Netflix, Eileen, Queen of the Serial Killers. L'histoire de cette femme, Eileen Wuornos, qui a été exécutée en Floride en 2002 et voilà, qui a été jugée pour avoir tué je sais même plus combien de types. Et en fait, elle se prostituait et elle a tué des clients. Voilà. Alors, des morts souvent assez violentes, hein, je précise quand même. Et un parcours un peu déroutant. Moi, je ne connaissais pas du tout cette affaire, ni même cette personne. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que elle va déclarer que c'était de la légitime défense et elle va s'accrocher à cet axe-là jusqu'au couloir de la mort. Mais je ne vais pas vous spoiler. En tout cas, ça traite à la fois, évidemment, du sujet principal, donc qui est de la justice américaine, et puis cette série de meurtres assez incroyable, et puis voilà une des premières tueuses en série vraiment percutantes que l'Amérique ait connue, et en même temps le problème de voilà la justice face aux femmes et du coup aux hommes qui abusent. Enfin, c'est très très délicat. C'est un petit docu qui te fait pas mal réfléchir. Petite reco, c'est pas fabuleux, mais j'ai trouvé ça très intéressant et ça mérite totalement d'être vu pour peu que le sujet vous intéresse un peu quoi. J'ai vu également, un autre docu sur Netflix, Mob War, Philadelphia versus The Mafia, je crois que ça s'appelle. Alors je me souviens plus trop à quelle période ça se situe, c'était pas il y a 1000 ans non plus, où une vague de règlements de comptes hallucinants, mais alors vraiment dignes de hit quoi, vont traumatiser la ville de Philadelphie et où les agents du FBI notamment vont tout faire pour stopper ce bain de sang, cette situation intenable, qui est le fruit en fait d'une guerre que se livre un parrain de la mafia qui s'appelle John Stanfai, qui a été un peu parachuté à Philadelphie, validé on va dire, pour voilà, gérer tout ce bordel de trafic, etc. Et un jeune Joey Marlino qui veut devenir parrain à la place du parrain. Et donc voilà, ces deux-là vont s'affronter, mais dans les rues et tout. Enfin, et d'autant qu'en plus Joey Marlino est une personnalité publique. Donc des séquences d'archives incroyables. J'ai trouvé ça très très bon. Et là réellement, il y a un souci d'immersion. On est complètement dedans, c'est assez dingue, je crois que c'est 3 épisodes d'une heure, j'imagine. Alors là, pareil, ça passe extrêmement vite. Hein. À l'inverse de le film House of Dynamite sur Netflix, avec Idris Elba et Rebecca Ferguson, j'ai vu que c'est assez divisé autour de moi, en tout cas. Personnellement, j'ai pas du tout aimé, je me suis fait ultra yesh. On est à l'arrivée imminente d'un missile nucléaire, il me semble, hein, sur le sol américain. Et on va assister à une période d'urgence absolue, donc le moment où on réalise que le missile est parti donc, vers le pays, quoi, vers les États-Unis, et le moment où l'impact potentiellement va avoir lieu. Donc voilà, on a ça du point de vue des bureaux de la sécurité, du point de vue du président, du point de vue de quelques autres personnes impliquées. C'est pas mal fichu, mais en fait t'attends, enfin tu es dans l'expectation, et le concept du film, donc c'est pas du spoil, hein, mais le concept du film, c'est que tu ne verras pas ce qui se passe. Ça va s'arrêter pile au moment où peut-être il y a eu un impact. C'est un parti pris que moi je... non. Voilà, j'ai regardé ça, je dis voilà, va te faire foutre. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que j'ai pas trouvé ça suffisamment bien pour que je m'en contente. C'est ça que je veux dire en fait. J'ai des potes qui ont aimé, ils ont aimé pour une raison très simple, c'est qu'en fait, la catastrophe, ils s'en fichent de la voir et de voir les répercussions ou pas. Hein. Enfin, peut-être qu'on sait pas hein, d'ailleurs, peut-être que ce sera évité, bref. Mais moi, tout le build-up là, voilà, tout ça pour ça quoi en fait. Pour moi, c'est de la grosse branlette quoi, vraiment. Hein. Mais sans le relâchement final. Et je vais conclure avec The Smashing Machine, un film que j'attendais avec pas mal d'impatience. Avec Emily Blunt et surtout Dwayne Johnson dans un rôle exigeant comme il n'en a jamais eu de sa carrière. Alors le film a eu beaucoup d'éloges. J'ai vu qu'en France on a fait un peu l'épice froid à dire ouais bof. Et bon alors moi j'étais assez confiant, c'est-à-dire que l'abondance m'avait beaucoup plu. Dwayne Johnson, je n'ai jamais été fan, mais j'ai vu énormément de ses films parce que je suis grand public, j'aime bien... je le trouve pas mauvais du tout dans ce qu'il fait, quoi. Mais c'est vrai que ce qu'il fait, c'est des films légers, quoi. Je suis pas du tout surpris, qu'on lui ait donné sa chance dans ce truc-là, parce que je pense c'est qu'il en était capable. Et oui, en effet. Alors, on suit, c'est un biopic, oui et non, parce qu'on c'est pas vraiment sur toute la vie d'une personne, mais on va suivre quelques années, voilà, de la vie de Mark Kerr, qui est donc une personne qui, venant de la lutte, puis du catch, si j'ai bien compris, elle fait partie des toutes premières vedettes en MMA, donc Mixed Martial Arts, là, vous voyez très bien le truc dans les cages, etc. Et qui, assez vite, a sombré dans l'usage de stéroïdes, et surtout est devenu addict aux opiacés, voilà, suite à des douleurs terribles qu'il ne supportait plus, et qui étaient le fruit de combats, hein, évidemment. Alors, c'est un film assez intimiste, beaucoup de gens ont fait la référence avec The Wrestler, voilà, moi ça m'avait fait penser aussi à un autre film, je sais plus c'est lequel, peu importe. Toujours est-il que j'ai trouvé le temps long, 2 heures, je trouvais que c'était long, je ne me suis pas senti impliqué. En fait, j'ai eu un sentiment assez étrange, c'est que j'étais admiratif de la performance des acteurs. Les deux là, Emily Blunt et Dwayne Johnson, sont remarquables, mais remarquables. Le problème, c'est que ils sont tellement remarquables que moi j'ai passé le film à me dire oh mais qu'est-ce qu'elle joue bien. Oh non mais alors lui là vraiment il est ah oh, c'était bravo. J'avais presque envie d'aller le féliciter après certaines tirades, tu vois. Mais pourquoi j'avais ce genre de comportement que je n'ai jamais eu devant The Wrestler par exemple, alors que Mickey Rourke m'a concrètement fait pleurer, c'est que l'histoire qu'elle racontait bof quoi. Je n'ai pas trouvé que c'était passionnant. Voilà, le parcours de ce type, c'est la façon dont le film est monté. Les combats sont vraiment expédiés à toute vitesse. T'as quelques combats de 5 minutes, mais très peu sur 2 heures de film. Trop peu, en fait, pour que tu comprennes ce que c'est, quoi, de se manger ses combats dans la gueule. Voilà, ça va surtout parler de son ego, ses craintes... Bof, quoi, je sais pas, j'ai pas... en fait, sur le papier, le film n'est pas très intéressant, je trouve. Par contre, à l'écran, bah ouais, c'est une performance assez dingue. Mais ça suffit... Enfin, pour moi, ça ne suffit pas à aimer un film, par exemple. Voilà, j'ai pas adoré, alors que je pensais beaucoup plus apprécier que ça. Il y a aussi un élément très con, hein, mais qui m'a pourri ma séance de visionnage, c'est la musique. Waouh, mais c'est qui a... Enfin, si, c'est le réel, j'imagine. On a une musique... insupportable, mais insupportable, complètement dissonante avec l'époque, et souvent même la scène qu'on vit, des trucs avec des notes de piano, on dirait un Woody Allen, enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc moi, il y a plusieurs fois, ça m'a sorti du film, tellement je trouvais la musique vraiment pénible, mais c'est que je dis pénible pour rester poli, quoi. Horrible, horrible choix de mais tout, hein, habillage sonore, mais à chier de ouf, quoi. Voilà, bon... Bref, et c'est tout pour ce JDV, et j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Ah oui, alors la question la plus récente, du coup je l'ai mis tout en haut, vous avez été assez nombreux à m'envoyer. J'aurais aimé avoir ton avis sur le nouveau trailer du film Michael. Alors, globalement, ça confirme un peu mes craintes, hein. J'avais fait une vidéo sur Michael, j'avais été invité par le copain John Ali sur sa chaîne pour faire un gros live en réaction au tout premier teaser. Il y a quoi, pas loin d'un an maintenant, j'imagine. Et je l'avais même fait, il m'avait autorisé à le poster également sur ma chaîne, pour que comme ça tous nos abonnés puissent voir, personne ne le rate. Et voilà, donc je ne vais pas répéter tous les points négatifs de ce projet, quoi, dont j'avais déjà parlé. Là, le teaser qui est sorti hier... eh bien, je dirais, pour faire, pas faire mille ans dessus, les points positifs, il y en a. La réal a l'air remarquable. Bon, en même temps, Antoine Foucault, bon, je suis pas trop surpris. Vous avez dit, moi, c'est un réal que j'aime vraiment bien. La photo est super belle, voilà. Et y a un souci de proportion. Enfin, c'est-à-dire qu'on sent la puissance de Michael, la puissance créatrice, enfin, toutes ces choses-là, et l'envie de se surpasser. Je trouve que dans ce teaser, on perçoit ça. Voilà, c'est les seuls trucs positifs. Les trucs négatifs, hormis le coup du blouson de Beatit qu'ils ont acheté sur Temu et qui ressemble pas du tout au vrai, et je comprends pas comment c'est pardonnable un truc pareil, qui ressemble à un détail. Le souci, c'est que pour moi, c'est très révélateur du fait que le film ne s'adressera pas du tout aux... Alors, c'est pas spécialiste de Michael, mais les fans hardcore, quoi. Les gens pour qui Michael, c'est extrêmement important. Je pense que ça, ils s'en battent les steaks. Et c'est un peu... Enfin, moi, du coup, ça achève de me mettre sur le bas-côté. Jafar, je n'y arrive pas, hein. Voilà, je suis plein de bonnes ondes, comment dire... C'est pas contre lui. Genre, quand Michael est mort, il avait 12 ans. De son propre aveu, il a à peine connu Michael. Genre, il a 2-3 souvenirs où il jouait à cache-cache à Neverland et de repas de famille, genre, pour les fêtes. Il est très sincère, hein, là-dessus, hein. Donc voilà, il a très très peu côtoyé en réalité Michael, ce qui ne veut pas dire que Michael ne l'a pas obsédé par la suite. Et il dit en fait, je me suis intéressé à la musique de Michael après son décès. Donc je pense qu'il a bossé, étudié comme un taré, qu'il a eu beaucoup d'infos parce que Jermaine, tout ça, enfin c'est évident, et que lui, ce qu'il veut, c'est prouver qu'il peut jouer, qu'il peut faire honneur, en fait, tout simplement, à Michael, et je trouve ça super beau. Après, les raisons pour lesquelles on a Jafar, faut pas se leurrer, c'est pas, comment dire, elles sont pas nobles du tout, c'est juste pour être sûr de prendre un mec complètement expérimenté, qui en plus va rechigner à montrer les facettes sombres de Michael par respect pour son oncle, etc. Et les States, ils savent très bien ce qu'ils font quand ils choisissent un très jeune mec comme ça. Donc voilà, il y aura sans doute du positif à ce choix et du négatif, on verra. Après, le mec n'est pas acteur et je trouve que ça se voit. La seule séquence dans le studio là, avec Quincy Jones, Jafar, il sort deux phrases et je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Alors après, Moi, j'ai dit que, voilà, moi, je ne reconnais pas Michael. Alors, évidemment, je ne reconnais pas Michael, pardon. C'est pas gênant. Austin Butler ressemblait pas à Elvis non plus, finalement. Enfin, pas tant que ça, en tout cas. Là, donc, c'est pas très grave. Le souci, c'est que Michael, c'était aussi un visage, un charisme, enfin, des visages, justement. Un charisme incroyable, et que là, réellement, pour moi, Jafar n'a pas du tout le sourire de Michael. Il n'a pas le regard qu'avait Michael, et c'était des choses très spécifiques à lui qui fascinaient les gens, je pense, hormis les traits vraiment spécifiques. Après, je suis d'accord que choisir un mec qui ressemble à Michael, ça sert à rien, il faut choisir un bon acteur, et de toute façon, de nos jours, voilà, on peut grimer quelqu'un suffisamment bien, normalement, pour que ça le fasse. Sachant que quelqu'un dans la vraie vie qui ressemblerait à Michael, c'est oui, mais il ressemble à quel Michael? Enfin, le Michael d'Off the Wall, le Michael de Bad, de History, enfin, c'est pas du tout le même visage. Là, il y a des périodes où j'ai l'impression que c'est mieux fait qu'à d'autres. J'avoue que le visage de Off the Wall, là, en studio, le nez, ils se sont un peu lâchés. Je sais pas, il y a un truc qui va pas, mais bon, ce n'est que moi. Et surtout, la séquence Beat It, par exemple, voilà, c'est pas le sourire ni le regard de Michael. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui fera que le film sera mauvais, ça que je veux dire. Et moi, ce qui me fait peur sur ce projet, c'est plutôt des décisions beaucoup plus lourdes, hein, mais j'en ai déjà parlé. Hein. Le fait que c'est le film de Branca, quoi, donc hein, voilà, Monsieur Estate, et que bah, il a dégagé Frank DiLeo, qui a quand même été le manager de Michael Jackson le plus important dans toute sa vie, et a joué un rôle mais colossal. Enfin, genre, faire un film sur la vie de Michael Jackson en faisant semblant que ce mec n'a pas existé. Déjà, là, ton projet, il vaut rien. Enfin, je veux dire que c'est... Bref. Après, il y a des trucs qui, moi, m'énervent, mais qui glisseront sur plein d'autres gens. La Karine Fey, le fait qu'elle soit pas du tout présente, alors que c'est quand même la maquilleuse privée et professionnelle de Michael pendant plus de 20 ans. Donc aussi, sa confidente sur plein de trucs. Une des rares personnes en qui il avait confiance. Alors, voilà, elle apparaîtrait pas non plus. Enfin, elle n'existe pas non plus. Et tout ça, c'est parce que ça contrarie Branca, quoi. Donc bon, et ça fait chier. Et ça empêche le film d'être sérieux comme un livre peut l'être. Voilà, des biographies sur Michael sérieuses, il y en a peu, mais il y en a au moins deux. Auxquelles je pense, et qui sont très complètes, où on n'est ni dans le pro ou l'anti. C'est-à-dire que voilà, on va reconnaître le génie, on va parler de tout ce qui est extraordinaire, et on va parler aussi, évidemment, si c'est sérieusement fait, de tous les soucis et les choses compliquées. Là, ça va pas être du tout fait comme ça. Donc on n'aura pas un vrai biopic sérieux. On va se retrouver avec des tranches de sa vie, et ma foi, pourquoi pas, je sais pas. C'est pas parce que moi ça me déçoit et que c'est pas ce que je voulais voir que les gens vont pas apprécier la proposition qui leur est faite. Voilà, et de la même façon, je pressens que les accusations vont être peut-être pas mises sous le tapis, mais très 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 légèrement abordées, je ne sais pas. Idem pour sa dépendance aux opiacés. J'en parlais avec le copain John Ali dernièrement, en fait depuis hier. Est-ce que vraiment les fans de Michael ont envie de voir ça à l'écran? Non, bien sûr que non. Maintenant, est-ce que c'est possible de faire un biopic sérieux sur cet artiste en mettant de côté toutes les accusations d'abus qui ont pourri sa vie et l'ont tué, enfin, très concrètement, hein, à petit feu, et ou de mettre de côté également sa dépendance catastrophique aux opiacés qui l'a poussé à avoir des attitudes terribles d'une personne malade, en fait, tout simplement. Pour moi, dès lors que tu atténues ça, ton film n'est pas sérieux du tout. Enfin, voilà. Donc, il faut trouver un équilibre. Voilà, parce que y a le côté voyeuriste, morbide, racoleur qui moi me ferait chier, hein, j'aimerais pas voir ça, mais d'un autre côté, planquer tout ça, nous faire croire que c'était tout youpi youpla, c'est pas possible quoi. Youpi youpla, non mais ça, bon bref. Donc voilà, donc je reste, j'attends de voir, mais clairement c'est pas pour moi en fait, je suis résigné, mais enfin résigné. Je me fais à l'idée que ce ne sera pas un grand film. Je pense pas, hein, vraiment. Qualitativement parlant, je veux dire. Maintenant, ce sera peut-être un grand divertissement. Et je me disais, mais là, hein, que en écoutant des gens parler, que ce sera peut-être juste une ode à Michael, juste une célébration d'une partie de son œuvre. Et ouais, pourquoi pas en fait. Donc oui, alors il y en a plein qui vont rager du coup. Enfin, pas pour mes raisons, je veux dire, mais rager en disant ah ouais, alors comme par hasard, ils ont pas osé parler de bon, un film de l'Estate. Leur but c'est de faire une ode à Michael, hein, c'est certain, et ils le méritent. Enfin, je sais pas comment dire, ils le méritent. Donc ce sera peut-être bien pour ce que c'est en fait. Moi, j'essaierai vraiment d'aller le voir. J'irai évidemment Day One. Hein. En essayant de mettre de côté toutes mes attentes qui ne seront pas satisfaites, parce que c'est peut-être pas possible aussi. C'est peut-être pas possible de faire, enfin, en tout cas, à notre époque-là, de faire un film vraiment extrêmement objectif et sérieux sur la vie incroyable de cet homme. Et c'est peut-être pas non plus d'ailleurs ce que le public a envie de voir. Désolé pour cette réponse un peu longue. Est-ce que tu connais les Viagra Boys? Les concerts notamment sont absolument incroyables. Viagra Boys, j'ai découvert par mon pote Carl Curtis, il me semble, il y a quelques années, avec la chanson et le clip qui est fabuleux, qui s'appelle Sports. Oh là là, mais quelle chanson géniale! Le reste m'avait un peu moins plu, parce que du coup j'étais allé jeter une oreille, et j'étais moins séduit, quoi. Mais Sport, une tuerie. Donc le groupe est très bon, enfin, ça me fait penser aussi un petit peu, parce qu'il y a une forme d'humour, mais assez désabusé et tout. Il y a ce groupe, la Turbo Negro, c'est pas le même genre musical, hein, mais... Enfin bref, je me souviens que tu avais détesté le film Priscilla de Sofia Coppola, mais je voulais te demander ce que tu pensais du reste de sa filmographie. Ah ouais, alors c'est vrai que j'ai détesté ce film, c'est un film vraiment nauséabond quoi, pour moi. Mais Sofia Coppola, par ailleurs, c'est une immense réalisatrice et il y a énormément, enfin pas énormément, mais elle n'a pas fait énormément de films non plus. Mais alors, ce que je pense du reste de sa filmo, j'aime beaucoup globalement. Il y a d'autres films qui me sont passés à côté, hein. J'ai tous vu. J'ai immensément aimé Virgin Suicides quand c'est sorti. J'ai été bouleversé par Lost in Translation également. Et j'aime beaucoup, je l'ai même en DVD d'ailleurs, The Bling Ring. Enfin, tout ça, je les ai en physique. The Bling Ring qui a, je crois, moins marché et que j'ai trouvé, mais trop bien, un super film. Donc, j'aime beaucoup, je sais pas combien ça fait de films là, mais en fait, j'aime beaucoup souvent ces films. Après, après The Bling Ring, je crois que j'aime plus rien. Et Priscilla, vraiment, c'est de la merde pour moi. Vraiment, vraiment. Mais même la réa, je trouve pas ça bon non plus. Enfin, mais sinon, et Lock of Kong, Virgin Suicide, Lost in Translation, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. C'est plus que des bons films pour moi. À part Ainsi soit jeu, quels sont les albums que tu préfères de Mylène Farmer? Alors, Ainsi soit jeu, c'est très très au-dessus de la mêlée, hein. Après, des albums de Mylène que j'aime énormément, il y en a évidemment d'autres. Et à propos d'autres, d'ailleurs, il y a L'Autre, qui est peut-être mon deuxième favori. Donc voilà, avec Agnus Dei, qui me met la chair de poule à chaque fois que je l'écoute. Ensuite, je dirais Cendre de Lune, Anamorphosé, Inamoramento. Je crois que c'est... Voilà, enfin, c'est ceux-là, c'est mes préférés. Après, les autres, je les aime beaucoup moins. Et puis les derniers, vraiment, à quelques exceptions près, ça me touche plus. À propos du film L'Homme qui rétrécit, est-ce que tu as lu le livre de Richard Matheson? Je n'ai jamais lu de livre de cet auteur de science-fiction. Ah, je m'en étrangle tellement je suis choqué. J'ai lu et relu ce livre. Je crois que je le disais d'ailleurs, je crois, dans ma vidéo. Richard Matheson, c'est un de mes auteurs préférés. Donc j'ai tout en poche. La chance qu'on a, c'est qu'il y a tout en poche. Et je disais même que Richard Matheson, peu de gens le savent, mais c'est pas juste un auteur de SF, c'est un auteur de polar. Et les polars qu'il a écrits, c'est des tueries. Je les ai tous en poche. Ceux-là, ils sont plus durs à trouver. C'est souvent en occasion des vieilles éditions des 70, et tout comme ça. Mais vous n'êtes pas prêts. Donc oui, moi je vénère cet auteur. J'ai été le voir au cinéma. Ah oui, alors parce que j'ai reçu plusieurs messages liés à L'Homme qui rétrécit et du coup je les ai regroupés visiblement. Qu'est-ce que je suis malin. J'ai été voir au cinéma, L'Homme qui rétrécit, car j'adore la thématique et des personnes comme Meret, je l'avais bien vendu. Au final, la première fois de ma vie que je sors d'une salle de cinéma avant la fin. Waouh, j'ai tenu une heure, je n'en pouvais plus. Alors là, après j'ai vu que c'est un bide, hein. Un gros en plus. Je crois que là ça fait quoi, 15 jours qu'il est sorti et il est à 200 000 entrées. Alors par rapport à ce qu'il a coûté, et au casting, et au réal, c'est une catastrophe. Donc ça me fait de la peine, parce que pour moi le film n'est pas mauvais factuellement. C'est juste que moi je ne l'ai pas apprécié, et j'ai développé pourquoi. Mais il ne méritait pas hein, de faire un four pareil, quoi. Après j'ai l'impression que la période est dure, hein. Je crois que le Kaamelott aussi, là, c'est pas un triomphe. Enfin bref, c'est assez cocasse de dire que Marche ou crève est très bien avec 5 gus pardon, qui marchent et blablatent pendant 1h50 et de trouver L'Homme qui rétrécit un film avec des dialogues insipides. Alors je ne comprends absolument pas ton commentaire. Un film avec des dialogues insipides. J'ai jamais dit que les dialogues étaient insipides, si. Non. Je crois que j'ai dit que peut-être les quelques. Alors déjà, non, il y a un truc qui ne va pas. Tu peux pas comparer Marche ou crève, qui est un film. Où visuellement il se passe rien, en gros, hein, c'est des jeunes qui marchent, et où ça parle non-stop, mais réellement, il n'y a que ça, c'est que des dialogues, un film qui est tout l'inverse, c'est-à-dire que visuellement il se passe énormément de choses, un homme rétréci, quoi. Et par contre, il n'y a aucun dialogue, enfin, à part vraiment, allez, on va dire 10 minutes de dialogue, et encore, je pense même pas, sur toute la durée du film. Donc ça n'a rien à voir, comment c'est pas cocasse. C'est comme tu me dis, c'est quand même cocasse de dire que t'aimes bien la pizza alors que t'aimes pas trop les fraises tagada. Il n'y a aucun rapport entre les deux, quoi. Mais aucun. Donc non, c'est pas cocasse du tout. Après, t'as le droit de pas être d'accord, évidemment. Enfin, je dis jamais que j'ai raison. Bref, sur l'homme qui rétrécit, enfin quelqu'un qui relève cette ellipse très opportune. Ah oui, entre le moment où il est dans l'aquarium et le moment où on le retrouve à l'extérieur. J'avais pas mis faire à ça, bref. À ce sujet, n'y a-t-il pas deux autres soucis avec cet aquarium? Que fait-il dans une cave? Alors, putain, mais moi aussi j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ça va être justifié à un moment? Parce que personne n'achète un aquarium pour le foutre dans sa cave. Hein. Enfin, s'il n'y a pas d'eau et pas de poisson, quoi. Mais bref. Et n'était-il pas surélevé au début du film et non au sol, comme dans la deuxième partie? Alors j'avoue que je n'ai pas fait gaffe, mais c'est peut-être que tu as relevé une deuxième anomalie qui serait bien énervante également. Enfin, moi, c'est le genre de détail qui m'énerve. Enfin, elle me dit, putain, mais la cohérence des trucs, quoi, c'est quand même pas compliqué. Donc voilà. À propos du Kunen, pardon, pas encore vu, mais c'est triste d'être autant tributaire des recommandations des autres. Inconsciemment, ça t'influence tellement que c'est aussi chiant que de se faire spoiler, en fait. Ah, dis donc, pourquoi tu me dis ça? Il faut pas être influençable comme ça. Attends, tu te sens tributaire des recommandations des autres, c'est ça? Inconsciemment, ça t'influence tellement que c'est aussi chiant que si tu te faisais spoiler. Non, moi je suis pas d'accord. Alors moi je suis pas influençable vraiment, hein, donc c'est-à-dire que même quand je dis que j'ai vu un film parce que un tel avait dit que, on pourrait dire bah t'es influencé, mais en fait c'est influencé de façon très très fun, enfin c'est très léger, ça que je veux dire. Après c'est une question d'âge aussi, je pense que passé 50 ans, bon, y a pas vraiment de personne qui m'influence à mort, quoi. Par contre moi je suis très curieux, donc en matière d'art. Mais c'est pas être influençable, tu vois, c'est être curieux, en fait. Si quelqu'un que j'aime bien me dit « c'est génial, machin », je vais dire « ah ok, je vais lui donner sa chance ». Mais être influencé, c'est, en gros, tu regardes le film, tu ne l'aimes pas vraiment, mais comme tu as été influencé, tu vas te dire « si, c'était bien quand même ». Voilà, ça, c'est être influençable. Donc, voilà, après, c'est aussi chiant que se faire spoiler, je vois vraiment pas le rapport. Enfin, se faire spoiler, c'est quand on te raconte la fin d'une œuvre. Je comprends pas très bien ton message. On a appris que la fortune de S. Frehley au moment de sa mort ne dépassait pas le million de dollars. Comme beaucoup de fans, as-tu été choqué? J'ai été attristé, mais j'ai pas été choqué. Parce que moi j'ai pas vu, alors pour être sur énormément de forums de fans de Kiss, alors, surtout américains, hein, mais j'ai pas vu grand monde choqué, hein, par cette révélation. On sait très bien que S. Frehley et l'argent, bref, et on sait aussi que il a fait de très mauvais choix de carrière, des mauvais placements, enfin il a mal géré son argent, enfin il était le premier à le dire, hein, aussi, hein, c'était pas un secret non plus énorme, hein, qu'il avait besoin d'argent. Des interviews même assez récentes, hein, où il est très transparent là-dessus. Donc je pensais quand même qu'il avait, enfin, je pensais qu'il avait un peu plus d'argent, mais il avait quand même un million de dollars, hein. c'est pas rien non plus. Après oui, si tu compares aux fortunes de Paul Stanley et Jane Simmons, qui eux c'est des centaines de millions de dollars sur leur compte en banque, hein. Oui, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir non plus en termes de, enfin je veux dire, Kiss, c'est Paul et Jean, hein. Enfin je vais faire ma vidéo spéciale Kiss très 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 bientôt là, dans la semaine, je vais essayer. Voilà, hein, c'est le catalogue des chansons de Kiss, même en termes de droits d'auteur, combien touchait S. Frehley, pas grand chose et presque rien par rapport à ce que touchait Jane Simmons et Paul Stanley, et c'est tout à même, c'est mathématique, c'est normal, puisque l'implication de S. Frehley est vraiment minime en termes de proportion par rapport au nombre d'albums, au nombre de compositions, etc. etc. As-tu vu la sublime vidéo générique antenne de Wings, Emmanuel Michel Colombier, pardon, de la chaîne Piano Jazz Concept sur YouTube? La vie de Michel Colombier est vraiment exceptionnelle, tant au niveau musical que privé, de la part de son enfant jusqu'à son travail de Gainsbourg à Madonna et musique de film. Mort à 65 ans seulement aux États-Unis, en déshéritant ses enfants, waouh, comme Maurice Jarre et Johnny Hallyday. Et pas mal d'autres, hein, y a Hulk Hogan aussi, pas le même niveau qu'a déshérité sa fille aussi, et visiblement elle ne s'y attendait pas du tout. Donc oui, je l'ai vu, j'aime beaucoup cette chaîne. Je regarde pas tout le temps parce que les sujets me passionnent pas tout le temps. Piano Jazz Concept, mais j'aime beaucoup le caractère du mec là. J'ai oublié son nom. Et il avait, je l'ai découvert d'ailleurs parce qu'on m'avait envoyé une vidéo, enfin un lien vers une vidéo qu'il avait fait à l'époque de du petit scandale qu'il avait eu avec la chanteuse Armanet et Sardou, enfin où elle avait vomi sur Sardou en disant les lacs du Connemara c'est de la sous-merde, c'est pour les cons, enfin etc. Les cons d'extrême droite, enfin, je ne sais plus, enfin bref, elle avait brillé par son intelligence. Et il avait fait une remarquable vidéo sur cette histoire, sur cette affaire, et il avait démontré assez habilement pourquoi Armanet disait de la merde et n'avait... Enfin bref, elle disait de la merde. Oh non. Donc j'avais beaucoup aimé, ça m'avait fait beaucoup rire. Est-ce que tu as des passions dont tu n'as jamais parlé en vidéo ? Ah non, des passions dont j'ai jamais parlé en vidéo, non, aucune. Tu sais, j'ai pas 1000 passions non plus. Hein. Une fois que j'ai parlé de cinéma, de musique et de littérature, la vérité, j'ai parlé de toutes mes passions. Hein. Moi, je fais pas de sport, je suis pas passionné par... je réfléchis d'autres trucs. Non, sincèrement. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous connaissez toutes mes passions, mais totalement. Pourrais-tu donner ton avis sur... Twilight Cabaret de Battle Beast. Une question que j'ai remis parce que je l'avais eu dans le précédent JDV et j'étais pas allé écouter parce que je suis qu'une merde et je connaissais même pas le groupe. Alors figure-toi, je suis allé voir, voir et écouter, et j'ai trouvé ça vachement bien. Alors, je connaissais pas, hein. Faudrait que j'écoute un peu le reste du coup. Mais j'ai même été assez surpris parce que c'est très pop, alors, au sens le plus noble, hein, très catchy, très dansant. Et en même temps, très puissant, le refrain. Enfin, j'ai trouvé ça excellent. Enfin, cette chanson, en tout cas, Twilight Cabaret, très, très, très bonne compo. Donc, approfondir. Je suis étonné, du coup, d'être complètement passé à côté. As-tu lu You Can't Win de Jack Black, le voleur, pas l'acteur-chanteur ? Non, jamais lu. Apparemment, ça parle beaucoup de liberté. Je ne sais pas, je peux pas te dire du coup. Je connais pas du tout en fait. Sinon, je suis allé voir pour Viens plus près de Sarah Granoy. Et l'on trouve un commentaire de Bretton Ellis qui dit le meilleur roman que j'ai lu depuis longtemps. Du coup, je vais me le trouver. Oui, maintenant que tu m'en parles, parce que moi, Viens plus près, je l'ai en américain, comme Closer. C'est comme ça que j'ai découvert, parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore été traduit en français. Et il me semble qu'effectivement, au dos de même de mon édition américaine, il y a les praises de Bret Easton Ellis. Et je le rejoins totalement. De toute façon, je me sens, enfin, j'ai tellement de goûts en commun avec lui. Mais voilà. Si tu aimes Sioran, je te conseille de lire Roger Munier, qui fut un de ses amis. Ses carnets appelés Opus Incertum. Notation sur le néant, sont fascinants. Je vais me le noter parce que je connais pas du tout. Rien que le titre, Notation sur le néant, c'est magnifique. Donc je vais aller lire ça. Merci beaucoup de ton mot du coup. As-tu vu le film Tyrannosaure de 2011 ? Pas un film de dino, mais un drame britannique cruel, sombre et épais comme la brume anglaise. Avec l'actrice Olivia Colman que j'adore, je te le conseille si pas vu. Sinon, la nouvelle série Apple TV de Last Frontier est bien sympa. Throwback vers l'ambiance des films série d'action thriller des années 90. J'ai commencé de Last Frontier, j'ai un peu de mal à accrocher, j'avoue. Mais bon, j'attends de voir. Tyrannosaur, je connais pas du tout. Donc je me le suis noté avec les films que vous me recommandez régulièrement. Donc c'est sur ma watchlist, mais pas encore vu. As-tu lu le roman de David Cronenberg qui se nomme Consumé ? Non, je n'ai jamais lu aucun roman de David Cronenberg. Voilà, quand c'est clair. Et même les films, je suis pas, j'aime beaucoup Crash, mais à part ça, et puis aussi il y en a La Mouche, tout ça, mais je suis pas fan. Je viens de commencer The Last Frontier. Ah bah putain, décidément, le deuxième qui m'en parle sur Apple TV et Canal Plus, ça va 100 à l'heure, à voir absolument. Et bah il faut que je m'accroche. Voilà, j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans pour l'instant. Tu es grand fan de Stallone, mais apprécies-tu les autres icônes du cinéma d'action comme Van Damme, Seagal, trois petits points ? Pas du tout, et jamais, ça n'a jamais été le cas. Seagal, j'ai regardé hein, dans les années 80, enfin fin 80 plutôt, hein, début 90 il me semble, l'âge d'or on va dire de Steven Seagal. C'était quoi Piège en haute mer ? Son plus gros succès il me semble, hein, et c'est ça j'ai beaucoup aimé. Mais pas lui, enfin sa performance, lol. Mais le film j'avais adoré. Après j'en ai vu d'autres et non, c'est pas bon. Enfin ça c'est... Il rejoint Chuck Norris avec... des films qui se regardent pour se marrer, quoi. Mais c'est pas bon, c'est pas des bons films, quoi. Je dis ça alors que je rappelle quand même hein, que Chuck Norris, il y a quelques films que je trouve excellents. Mais tout en sachant ce que c'est juste que je les adore. J'adore Invasion de l'USA, qui est vraiment, on dirait un film de fesses sans fesses. Mais tellement c'est vulgaire et incorrect et jouissif. Et j'ai énormément aimé les... oh putain, Portée disparue, voilà. Alors que j'avais refusé de les voir pendant très longtemps. Je précise que c'est des films que j'ai découverts adultes très tardivement. Parce que pour moi, c'était pas bien et tout. Et bref, du sous-Rambo, enfin bref. Et je les ai vus à la télé, je crois, très tard. Et je me suis pris une vraie baffe. Je trouvais ça super cool. pour ce que c'est, hein. Mais super cool. Van Damme, j'en ai vu énormément dans les années 90. Parce que je le trouvais très fun. Il me faisait beaucoup rire. Mais non, j'aime pas. Enfin, c'est pas un bon acteur. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Moi, j'aime beaucoup. Alors, par contre, il y a des films que j'aime beaucoup avec Van Damme. J'aime beaucoup Bloodsport, que j'ai vu, je sais même pas combien de fois. Et il y a quelques autres films avec Van Damme que j'ai beaucoup aimé, qui sont généralement ses plus gros films. Donc, c'était les années 90, à l'époque où ça cartonnait, quoi. Mais c'est du divertissement pur. C'est pas de la qualité. Enfin, Stallone, pour moi, il a fait des chefs-d'œuvre. Van Damme, il a jamais fait de chefs-d'œuvre. Enfin, Arsegal, encore moins. Es-tu un lecteur de Terry Pratchett, pas du tout. Tu préfères la mouche de Cronenberg, bah tiens, ou la mèche de Cronenbourg, putain. Puisqu'on parlait d'Axel Rose, justement, penses-tu qu'il aurait pu devenir aussi intouchable que Bruce Springsteen s'il avait été plus prolifique en sortie d'album et si plus jeune il avait su mieux se contrôler, canaliser ses tourments et trouver son équilibre. Même si Axl Rose est devenu une icône, ce n'est pas tout à fait comme Bruce Springsteen, ça c'est sûr, qui semble incritiquable. Même les gens qui désapprouvent totalement ses prises de position ou ne l'aiment pas le considèrent comme un géant. C'est totalement vrai ce que tu dis, c'est vrai que contrairement à Axl Rose, Springsteen il est très politisé, mais ça ne n'entache pas du tout, enfin il ne divise pas pour autant en matière d'artiste, de chanteur, quoi. Alors, Axl Rose, je sais pas, parce que Springsteen c'est un artiste solo, Axl Rose c'était vraiment le chanteur de Guns N' Roses, c'est pas tout à fait pareil en termes d'impact, je veux dire. Après, je suis pas certain qu'Axl Rose, même s'il avait pu mieux se contrôler, etc., etc., il aurait pu atteindre le niveau de popularité et de respect de Springsteen. Je pense pas. Bref, je pense pas que c'est souhaitable non plus. Faut dire que Springsteen, même quand il a commencé, c'était très sage, hein, finalement. Enfin, je veux dire, comparé à Axl Rose, hein, je veux dire, pardon. Donc, je pense pas que tu peux être aussi trash qu'Axl Rose et atteindre les sommets et tout d'un coup te muer en Bruce Springsteen, quoi. Et je pense même pas que ce soit vraiment souhaitable. Après, quand on voit Axl Rose, il est devenu ultra clean, hein. Bon, la semaine dernière, il s'est énervé sur scène, mais à part ça, je veux dire, voilà, il est vraiment devenu pépère. Et il le dit lui-même, d'ailleurs. Il en a parlé il n'y a pas très longtemps. Il a fait un commentaire là-dessus, voilà, en disant qu'il avait vraiment trouvé une paix. Voilà. En repensant aux articles de la presse metal dans les années 90 et 2000, est-ce que tu as l'impression que cette presse a tendance à surévaluer les groupes de ces décennies, à les starifier de manière exagérée, alors que si on compare ces groupes par rapport aux mastodontes et aux second couteaux des années 70-80, ils ne pèsent pas bien lourd en fait, à quelques rares exceptions près, pardon. C'est flagrant au niveau des chiffres des tournées. Penses-tu que la presse ressentait le besoin de se créer de nouveaux héros pour faire vivre le style sur lequel elle écrit, pour vendre du papier? C'est super intéressant. Je sais pas trop, je te trouve un peu dur par rapport aux chiffres, je veux dire. Parce que factuellement, alors ce n'est pas tout le mouvement métal des années 90-2000. Des groupes comme Metallica, Def Leppard, Bon Jovi et quelques autres qui étaient effectivement, dont on parlait beaucoup dans la presse métal. Enfin, clairement, ils ont vendu et rempli des stades. Exactement comme Aerosmith dans les années 70, ou Kiss, ou Black Sabbath. Ben voilà, donc je pense pas qu'ils inventaient ou qu'ils survendaient, tu vois ce que je veux dire. Les ventes étaient colossales quand même. Hein. Alors, 90-2000, elles étaient quand même moins colossales que dans les années 80, donc je relativise un peu mes propres propos, quoi. Mais ce qui est certain, c'est que la presse, oui, elle a besoin de faire croire que... que c'est bandant en fait, enfin que le phénomène est dingue et tout, faut pas t'être chaland, hein, ça, là-dessus, on est totalement, totalement d'accord. Je te trouve dur quand même. Après, ça concerne très peu de groupes, là, je suis d'accord avec toi, ça concerne très très peu de groupes par rapport au flow de la scène métal. Oui, il y en a quand même énormément où c'est pas... Ils survivent ou ils vivent, mais on n'est pas dans des triomphes, en fait, comme les groupes que j'ai cités tout à l'heure, quoi. Aimes-tu le ZZ Top pré-Eliminator, c'est-à-dire celui des années 70 et de l'entame des années 80, autant que celui de la période 83-90? Pas du tout. Notamment, je me souviens, la première fois que j'ai écouté les albums pré-Eliminator, qu'avait mon père, d'ailleurs, je crois, au moins un, j'étais hyper étonné parce que les arrangements n'étaient pas du tout les mêmes. Ils n'avaient pas encore ce gros son moite avec la basse hyper en avant, ce côté machine quoi, qu'ils ont eu dans les années 80, presque funk aussi, très dance floor quoi. Et du coup, j'aimais pas trop quoi. J'aimais bien la voix, mais c'est pas, soit je les ai pas, c'est les albums que j'ai pas. Les ZZ Top, je les ai tous, mais à partir de Eliminator. Et mes préférés, c'est clairement Eliminator et Afterburner. C'est mes leurs très très loin au-dessus des autres, même si par la suite j'ai continué à acheter et à bien aimer quoi. Tu es plutôt Team Black Crowes ou Team Georgia Satellites? Alors Black Crowes, j'aime pas du tout. Georgia Satellites, je connais moins bien. Mais le peu que j'ai entendu à une époque, j'avais bien aimé. Enfin, j'ai pas souvenir que ça m'ait déplu. Alors que Black Crowes, j'ai souvenir que j'avais détesté quoi. C'est pas mauvais du tout, hein. C'est juste un genre, la voix, les arrangements, ah putain, mais même les mélodies, j'ai rien aimé quoi. Rien de rien. C'était vraiment putain. Bref. Si tu habitais, Boicello, serais-tu plus côté Don Camillo ou bien côté Pepone? Oh bon, Don Camillo, mais de ouf. C'est clair. Quand j'étais petit, j'adorais. As-tu lu les canaux du Glenn Carrig, de William H. Hodgson, qui écrivait du Lovecraft avant Lovecraft? Sinon, je te recommande, alors je n'ai jamais entendu parler de cette personne, donc je vais aller fouiner, merci infiniment pour ta reco. Ce qui est étonnant, c'est que dans la magnifique biographie, pourtant extrêmement complète, sur Lovecraft, là, dont je vous parle de temps en temps, qui est vraiment la seule qui vaille le coup d'être lue, quoi. Bon alors j'ai oublié parce que je l'ai lu il y a longtemps, peut-être que... parce qu'il parle de quelques influences de Lovecraft et il ne cite pas cette personne. Enfin, je ne crois pas, peut-être qu'il la cite en fait et que j'ai oublié, c'est possible, c'est tellement possible. Bref, as-tu vu After Sun? Non, et c'est pas un... je sais pas, ça m'a pas attiré, j'ai peut-être tort. Hein. As-tu écouté le dernier Deftones? Ouais, j'en avais parlé récemment, il m'avait énormément déçu. Pardon. Que penses-tu de Dantec niveau littéraire? Je n'ai jamais lu Dantec. Jamais, jamais. Je vous ai dit, hein, je suis une quiche totale en littérature française. Moi, à part Houellebecq et Beck BD, ou alors des vieux trucs, hein, évidemment, Maupassant, Duras, j'adore. Bref. Non. J'ai pas fini. Pour moi, Les Racines du Mal est l'un des plus grands romans de science-fiction français. Bah, c'est bien possible. comme je lis... pas, en fait, de science-fiction française, je l'ignore. As-tu vu Sanglante Confession avec De Niro et Duval? Oui, 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 tout à fait. On se croirait dans le Dahlia Noir de Leroy, c'est pas faux. Pour Suran, j'ai vu et aimé hein, Sanglante Confession. Pour Suran, ta grand-mère a dû t'offrir de l'inconvénient d'être né. C'est un livre génial et très drôle. As-tu vu Brad Pitt dans California? C'est son rôle le plus barré et effrayant. Je te conseille aussi Le Livre Noir des Tueurs en Série de Stéphane Bourgoin. Ça vaut les Série Monsters. Stéphane Bourgoin, mais tu le sais forcément mieux que moi. Voilà. Je l'avais à une époque, le Livre Noir des Tueurs en Série. Je l'ai plus. J'avais dû le prêter à quelqu'un. Sacré Stéphane Bourgoin, quand même. Sacré coquin, quel sacré coquinou, hein. Qu'est-ce que tu me dis d'autre? Alors California, j'ai pas aimé le film, mais j'ai beaucoup été impressionné par la performance de Brad Pitt. Ça, je m'en souviens, ça m'a marqué. Alors pour le Suran, je suis allé voir parce que je sais que c'était dans cette collection-là. Voilà, je sais pas si c'est la collection arcade de chez Gallimard. Hop, voilà. Aveux et anathème. Là j'ai les entretiens. Là j'ai Bréviaire des vaincus. Putain, ça ce truc incroyable. La tentation d'exister. Tiens, ça c'est une autre collection. C'est tel Gallimard. Et exercice d'admiration. Et je crois que c'est le Bréviaire des vaincus qu'elle m'a offert. Ou Aveux et Anathèmes. C'est un de ces deux-là, en fait. Parce que les autres, bah, je les ai, bien sûr, mais en autre collection, en autre édition. Et du coup, je sais que c'est pas... Parce que je sais qu'elle, elle m'a offert un de cette collection-là. C'était dans ce format-là. C'est un de ceux-là. Donc, c'était pas celui que tu me dis. Mais ça aurait pu, hein, évidemment. As-tu un avis sur les Simple Minds, notamment New Gold Dream? Simple Minds, j'en avais longuement parlé dans un JDV, enfin longuement, ouais, assez longuement, il y a quelques mois, mais tu étais peut-être pas encore abonné. Je disais que j'ai jamais eu aucun album de Simple Minds, donc c'est pas un groupe dont j'étais fan, et c'est bien évidemment Don't You Forget About Me, que j'ai découvert avec Breakfast Club, et je crois que celle que je préfère encore, c'est New Gold Dream, qui pour moi est leur chef-d'œuvre ultime, et dont le refrain te donne le frisson, enfin... La voix est extraordinaire. Voilà. Il y en a d'autres, hein, des chansons de Simple Minds que j'aime énormément. Et pourtant, j'ai jamais acheté d'album. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je veux dire, surtout à l'époque, dans les années 80, quand j'étais ado et que j'achetais tous les Duran Duran, tous les Depeche Mode. Pourquoi Simple Minds, alors que j'entendais des trucs qui me plaisaient beaucoup, je n'achetais pas. C'est un peu comme Tears for Fears, où il y a plusieurs chansons que j'adore, qui sont magnifiques, des chefs-d'œuvre, carrément. Et que j'ai écoutées. Mais j'ai jamais franchi le pas d'acheter un album. Es-tu amateur de montres? Et si oui, as-tu vu la nouvelle montre Casio en édition limitée pour les 40 ans de Retour vers le futur aux couleurs de la DeLorean et du tableau de bord de celle-ci? Je suis amateur de montres, pas spécialement. J'en ai, hein, j'en ai quelques-unes, mais je suis pas un collectionneur de montres et voilà. Ah, par contre, j'aime beaucoup Casio, mais celle-là, je l'ai vue, hein, et je la trouve pas. Je la trouve pas géniale parce que c'est surtout une montre hommage à Retour vers le futur. Une montre qui aurait repris un peu le design d'une DeLorean normale, c'est-à-dire tonalité métal gris et plastique noir, tu vois. Ça, j'aurais adoré. Je pense que ça aurait pu faire une montre de ouf. Bref. Donc, je l'ai vue, mais non, elle ne m'intéresse pas. Ouais, j'aime bien les montres. Mais j'aime bien les montres ouais, un peu cheap des années 80. Du coup, on est complètement dans la thématique. Mais ce modèle-là, je l'ai vu passer et en fait, non, j'en veux pas. À propos de Kiss, qui doit être le groupe avec le plus de produits dérivés au monde? Et comme Dimebag Darrell à une époque, est-ce que tu rêves d'être enterré dans un cercueil Kiss? Alors, je n'ai pas de rêve lié à mon enterrement. Pour une raison très simple, c'est que je ne serai pas là. je serai là et pas là en même temps. Mais en tout cas, je ne serai pas là pour le savourer, le voir, etc. Je comprends tellement le souhait de Dimebag parce que... je trouve ça très chouette, en fait, de ne pas être sérieux, je veux dire, jusque dans sa propre mort. Voilà ça que je veux dire. Le cercueil Kiss, pour moi, c'est vraiment une idée de génie. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que Gene Simmons s'y plaisante souvent en disant « Kiss vous accompagne de la conception ou non-conception jusqu'au décès. » Puisqu'il y a des préservatifs Kiss et des cercueils Kiss. Il y a aussi sûrement des tétines Kiss, enfin bref. Mais non, j'ai pas de... Enfin, je rêve pas du tout d'être entré dans un cercueil Kiss, même si j'aurais rien contre, parce que je trouve ça très drôle, quoi. Donc je trouve que c'est très sympa, quoi. Décalqué sur Depeche Mode, n'était-ce pas le groupe allemand Camouflage par hasard? Putain, non, c'était un autre nom. Écoutez, je vais demander à ma chérie, et je vais vous le mettre en bas, pour ceux que ça amuse. Et je vous jure, mais allez-y. Tapez sur YouTube, vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas conscience à quel point c'est scandaleux et fascinant, du coup, mais de façon un peu morbide. Et c'était la dernière question reçue, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.